l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Aurignac, 94.1.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Quel plaisir de se retrouver entre 12h et 13h. Surtout, restez bien à l'abri de la chaleur si vous êtes un petit peu fragile, car les températures encore dans notre région vont être caniculaires cet après-midi, 33 à 34 degrés. Donc si vous avez la possibilité, restez au maximum au frais. Pensez à boire si vous êtes une personne fragile. Allez, au sommaire de ce magazine, dans quelques instants, on parlera de solidarité grâce à Anne-Rose et Jean-Couvic, qui a été rencontrée des membres de la solidarité dans le diocèse d'Auch. Elle sera avec, entre autres, le CCFD Terre Solidaire du Gers. Et puis, on parlera d'un débat, sur les addictions qui aura lieu à Tarbes, au Parvis, mardi prochain, mardi 2 juin. C'est un ciné-débat qui est organisé par Addiction France, avec la présence exceptionnelle de Romain Boringer, qui sera donc présent toute la journée. C'est organisé avec la Maïf Prévention, mais également le Parvis, et puis le CPTS de Tarbes à Dour, voilà, sur bien sûr les sujets sur les addictions. Et puis dans un jour, un livre en auteur, on parlera du deuil, comment on peut se sortir du deuil après avoir perdu quelqu'un de proche. C'est un peu le sujet du livre que nous présentera aujourd'hui dans Philippe Leonide, un jour, un livre, un auteur. Mais pour l'heure, on part de suite dans le Gers retrouver Anne-Rose Jean-Couvic.
Présence à Catus, 92.5.
Cette semaine, nous parlons solidarité, la solidarité du côté du diocèse d'Auch, et j'ai pour cela deux invités avec moi. Catherine Marestin, vous êtes membre du conseil diocésain de solidarité, et Christian Trouche, vous êtes référent régional du CCFD Terre Solidaire, et vous êtes notamment, bien sûr, dans l'équipe d'Auch. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, on va revenir avec vous sur un événement qui s'est passé à Lectoure au début du mois de mai, le Festival des Terres Solidaires, qui résonne, ma foi, pas trop mal avec les fameuses Terres d'Espérance dont votre évêque, Monseigneur Lacombe, nous parle depuis de longs mois déjà. Alors d'abord, quelle est cette idée, ce Festival des Terres Solidaires? Comment est venue cette idée et quel en était l'objectif?
Alors l'idée, elle vient de l'activité qu'a menée le CCFD pendant 4 ans, avec une solidarité particulière avec la région des Grands Lacs en Afrique, et on terminait cette période de 4 ans, et on a dit, il faut qu'on conclue notre solidarité active avec nos partenaires du Sud par un événement un petit peu plus important, festif, pour faire parler du CCFD, pour essayer d'intéresser des nouveaux bénévoles, pour collecter des fonds, enfin... Voilà, les activités auxquelles on se consacre de façon habituelle au niveau du CCFD régional.
Et ça marche, c'est-à-dire que les thématiques, les sujets, les lieux qui préoccupent le CCFD Terre Solidaire toute l'année, tout le temps, est-ce que ça intéresse encore les personnes de chez nous, quand on voit qu'elles-mêmes, elles ont déjà pas mal de problèmes à gérer ici?
Alors le pari était justement de les intéresser par... en proposant différents modes de réflexion ou d'action, donc avec réflexion, comment des conférences, des tables rondes, mais aussi avec des interventions d'artistes du Sud ou des ateliers participatifs qui essayaient tous de faire le lien entre le ici et le là-bas. C'est quand même un des grands sujets du CCFD. notre activité dans nos pays a un impact sur le Sud, que ce soit économique ou environnemental, et donc on voulait essayer de faire le lien entre ces deux côtés de façon à participer tous ensemble à l'évolution de notre planète, de notre environnement, de plus de justice au Nord comme au Sud.
Voilà. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que vous avez réussi à interpeller, à faire venir des personnes qui, a priori, ne se sentaient pas concernées ? Est-ce que vous avez senti que cet événement-là, il a fait bouger des choses ? Ou peut-être que vous avez eu des questions, des réactions qui vous ont interpellé ?
Alors, c'est peut-être un peu tôt. On n'a pas complètement évalué encore les choses. Hein. Ouais. Pour l'instant, c'est la période de repos, puisque ça fait qu'une semaine. Mais si on regarde le nombre de personnes qui sont passées, c'est une réussite. On a vu passer pas mal de monde.
Combien de personnes à peu près ?
Je ne sais pas, il faut dire oui, jour. Cet ordre-là, peut-être. Oui, oui, c'est ça. Un millier par jour. Oui, oui.
Donc ça, donc, c'était à Lectoure. Et donc il y a un millier de personnes chaque jour pendant 3 jours, voilà, qui ont fait l'effort entre guillemets de faire la route jusqu'à Lectoure. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une attention.
Voilà, et ça nous était jamais arrivé encore. Donc je pense qu'en termes de ce point de vue-là, il y a déjà une réussite. Et puis d'autre part, là c'est plutôt quantitatif, mais qualitativement aussi, si on se réfère à tout ce qu'on a entendu, les sourires des gens, le fait qu'ils soient restés, et on a quand même eu beaucoup d'interpellations pour dire « alors l'an prochain vous recommencez ». Donc je veux dire que ça a été très bien reçu par ceux qui ont fait l'effort de venir.
Christine Marestin, vous avez un regard un peu global sur toutes les actions solidaires qui sont menées dans le diocèse du Gers. Quel regard vous portez sur cette initiative précisément ?
Voilà, dès la préparation, je me suis d'abord sentie invitée à participer, et j'ai participé effectivement activement aux 3 jours en jouant les petites mains, donc témoin d'une belle programmation, d'une riche programmation, des tables rondes d'un bon niveau, avec des sujets qui touchaient à la souveraineté alimentaire, à l'agroécologie, qui touchaient à l'éco-citoyenneté, enfin vraiment très très riche chaque jour, des ateliers en petite nombre, enfin avec qui réunissait juste une quinzaine ou une vingtaine de personnes, où les gens pouvaient mettre en pratique comment par exemple fabriquer son engrais écologique, comment s'intéresser à la permaculture. Alors il y avait des ateliers qui s'adressaient aux enfants, aux adultes. Là-dessus, des spectacles de rue, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Tout ce festival s'est terminé en apothéose le dimanche par une grande messe à la cathédrale, et puis l'après-midi par un gospel. La dimension internationale était là, la dimension universelle était là. Franchement, je pense que ce festival a coché de multiples cases.
C'était ça la clé, c'était de mêler de la culture au ludique, au pédagogique, à une approche plus intellectuelle. C'est ça la réussite, c'est qu'il faut mêler un petit peu toutes les approches.
Oui, oui, et je pense que c'est une conviction du CCFD qui souvent touche les jeunes justement par le jeu. Hein, qui est un vecteur pédagogique fort. Hein, comment découvrir le gaspillage de l'eau, comment découvrir la protection de la nature et de la terre, qui mieux que les enfants peuvent le découvrir par le jeu, par exemple.
Hein ? Oui, on croit beaucoup à la méthodologie d'éducation populaire, donc qui aide les personnes à se former, à échanger entre elles pour se former, et non pas recevoir une formation extérieure par quelqu'un, un sachant qui va leur expliquer comment faire. Au contraire, à la fois avec les gens qu'on reçoit ici, mais à la fois dans la façon de travailler avec nos partenaires du Sud, c'est la méthode qu'on promeut, quoi. À partir des connaissances des gens, de la base, et on s'appuie là-dessus pour essayer d'avancer tous ensemble.
Est-ce qu'il y a, bien sûr, sur tous ces thèmes-là que vous avez mentionnés, l'agroécologie et tout ça, est-ce qu'il y a une approche, une manière de faire et des solutions qui peuvent être aujourd'hui les bonnes, à la fois pour ces pays du Sud et à la fois pour nous ici, parce qu'on le dit souvent, et notamment avec votre archevêque, Mgr Lacombe, on a souvent l'occasion de pointer du doigt les difficultés, les souffrances du monde agricole ici, chez nous. Alors, est-ce qu'il y a des réponses qui peuvent coller ici et là-bas, aujourd'hui ?
Des réponses, donc, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. La vraie réponse, c'est de partir de la réalité des personnes. Et à partir de là, on construit quelque chose. Mais il faut leur laisser à la fois le temps, les moyens de le faire. Et puis derrière, effectivement, si on se positionne d'un point de vue plus global, il faut aussi qu'il y ait un appui collectif, alors qui soit régional, national, international. Bon, mais voilà, il faut vraiment joindre tout ça. Mais on a vu dans les conférences, je vais retenir juste deux choses. On a fait par exemple venir Cyril Dion qui nous a dit, à travers la Convention citoyenne pour le climat qu'il avait menée au nom de notre cher président, pour dire, quand on réunit des personnes choisies au hasard, qu'on les met ensemble, qu'on leur donne les moyens de réfléchir, parce qu'on fait venir des gens, des scientifiques, qui sont des experts, qui sont pour, qui sont contre, on leur fait un tableau très général, il en ressort du bien commun. Parce que les gens réfléchissent sur, vraiment sur leur problématique et sur le long terme. Ils n'ont pas les contraintes, on va dire, des hommes politiques ou d'autres personnes. Donc ça leur permet de réfléchir de façon un peu plus neutre. Et on arrive à trouver, à proposer des solutions qui ne sont pas forcément mises en œuvre après. Mais...
Alors c'est ça le problème, parce que alors, quand vous le dites comme ça, ça paraît tellement facile. Bah oui, il suffit d'avoir de bonnes idées, et puis quand on se réunit, on a les bonnes idées. Mais si concrètement elles sont toujours un peu mises à mal ou toujours difficiles à mettre en œuvre, à quoi bon ? Finalement, à quoi bon se donner autant de mal comme le fait le CCFD Terre Solidaire ?
Non, on fait toujours avancer les sujets quand même, hein. Ce n'est pas complètement négatif. Quand on voit le deuxième exemple dont je voulais parler, c'est ce que nous a dit un des scientifiques qui est venu, qui a travaillé assez longuement en Inde, pas avec nos partenaires, mais avec des paysans locaux. Mmh. Il y a vraiment un exemple qui est porteur d'espoir, parce que dans un des pays, puisque c'est un ensemble de pays en Inde, il y a 1 million d'agriculteurs qui se sont mis à l'agroécologie et soutenus par vraiment des politiques locales. Et là, d'après ce qu'il nous a dit, il y a des changements profonds, à la fois pour le revenu des agriculteurs, à la fois pour l'environnement et pour l'ensemble de la société. Et avec ces fameuses méthodes d'éducation populaire. Donc il y a un ensemble d'actions individuelles, mais qui se sont retrouvées aussi collectivement, politiquement.
Oui. Ça porte du fruit quand petit à petit ça devient collectif, en fait, c'est ça que vous dites.
Tout à fait. On ne peut pas non plus dire aux gens, vous faites mal, vous, dans votre coin. Il faut mettre ensemble, réunir les gens pour arriver à faire quelque chose ensemble. Même ici, on a l'exemple de l'EHPAD de Termes d'Armagnac, où collectivement, la mairie, puis quelques personnes se sont organisées une alimentation de qualité durable pour les personnes. Donc, c'est, on dirait, une petite réussite, mais c'est une réussite aussi collective. Et puis, ces gens-là, ils font réseau au niveau national aussi. Donc, on peut imaginer que petit à petit, les choses vont évoluer.
Oui, ce sont souvent des épiphénomènes, mais qui sont des germes d'espoir, parce que s'ils se démultiplient, ben, effectivement, toutes ces expériences, toutes ces innovations seront porteuses de fruits, oui.
Quelle est la suite? Qu'est-ce que le CCFD Terre Solidaire nous concocte pour la suite, pour continuer à sensibiliser? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres événements? Bon, là, 3 jours à Lectour, 3 jours de festival. On imagine aussi toute la logistique qu'il a fallu prévoir, anticiper, mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres actions du même genre, ou peut-être un petit peu plus modestes, qui sont prévues dans les semaines ou les mois à venir, sur les mêmes sujets, sur la même préoccupation?
Alors, on a de toute façon déjà des actions qui se tout au long de l'année, en particulier à l'automne. On participe par exemple au Festival Alimentaire, qui est un festival de films ou documentaires, pas seul, mais avec un ensemble d'organisations de solidarité internationale, et qui permettent de débattre. Là, on est vraiment sur des films et débats. Et après, il y a toutes nos actions habituelles, intervention dans les écoles, comme disait Cathy tout à l'heure, toujours des pédagogies adaptées à différents âges, donc qui existent déjà. On a une pléthore de jeux et de choses qui existent, qu'on essaye d'utiliser.
Oui, oui. Allez, pour terminer cet entretien, je vais vous demander à l'un et à l'autre une question plus personnelle. Pourquoi vous avez fait ce choix de vous engager dans ce domaine de la solidarité? Qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous consacrez une partie de votre vie à ce combat solidaire, j'allais dire?
Oui, ben je crois que, tout modestement, il me semble être un petit grain de sel dans la pâte. Et j'adore ce chant « Vous, le sel de la terre », que l'on chante non seulement en église, mais que l'on pourrait chanter justement dans les milieux agricoles. Donc, il me semble que c'est continuer à faire fleurir cette terre qui nous a été offerte, si belle, et à surtout tenter de ne pas la dégrader, de la conserver toujours aussi belle.
Merci.
Moi, je veux dire, je suis tombé dans la marmite du CCFD quand j'étais petit, hein, c'est comme Obélix.
C'est une histoire de famille.
Donc, oui, si on veut, de famille. Je me souviens, quand j'étais tout enfant, il y avait les efforts de carême, on avait une petite tirelire qu'on mettait sur la télé, et quand on faisait un effort, on avait un petit sou qu'on mettait dedans. Donc ça a commencé comme ça, c'était les débuts du CCFD, moi j'étais tout gamin. Et ensuite, moi je suis parti 4 années en République centrafricaine, j'ai eu l'occasion aussi d'aller en Amérique du Sud, et donc on rencontre des paysans, beaucoup, dans des situations difficiles, et puis ça vous transforme, et puis on vit avec eux, on partage, on rit, enfin voilà, c'est une expérience de vie qui fait que derrière on se dit, bon, il faut qu'on agisse, quoi, qu'on continue à agir après.
Merci beaucoup à tous les deux, Catherine Marestin, Christian Trouche, merci pour ces explications, et puis bonne continuation ici dans le diocèse d'Auch, où vous œuvrez au service de la solidarité. À bientôt sur Radio Présence.
Merci. Merci.
Présence à Gourdon, 104.8.
Comme chaque année, l'association Addiction France 65 propose son ciné-débat. Pour nous parler de cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Ricarrère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éducateur spécialisé donc à l'association Addiction France pour le département des Hautes-Pyrénées. Je parlais d'un ciné-débat. C'est un rendez-vous annuel que vous proposez.
Tout à fait. C'est la troisième année consécutive que nous organisons un ciné-débat dont le but est de parler des addictions, mais en partant de la diffusion d'un film qui traite de ce sujet. Voilà, c'est un bon support pour inviter le grand public à venir découvrir un petit peu et parler de ce que sont les addictions, soit directement, soit indirectement, par les proches, l'entourage par exemple, qui vit aussi souvent des situations difficiles dans ce contexte. Donc voilà, c'est une manière un peu décalée et qui marche très bien. Donc on a décidé de chaque année d'organiser avec le Parvis notamment la projection d'un film qui sera suivi ensuite d'une discussion avec des professionnels de l'addictologie.
Alors ce film que vous avez sélectionné cette année, c'est « Dites-lui que je l'aime ».
Tout à fait. C'est un film donc de Romane Bourringer qu'elle a mis en scène à partir du livre de Clémentine Autain, la femme politique dont la mère était une actrice et qui malheureusement est décédée quand Clémentine Autain était relativement jeune. Et lorsque Romane Bourringer a lu le livre, elle a retrouvé un petit peu son histoire, c'est-à-dire une enfance marquée par l'absence d'une mère pour des raisons variées, et notamment par rapport à un contexte d'addiction. Donc elle a réalisé ce film qui est sorti fin 2025, et donc on a décidé cette année de le projeter au Parvis le mardi 2 juin, donc mardi prochain, à 20h. Et nous avons l'immense honneur et privilège de recevoir à cette occasion-là Romane Bourringer, qui viendra animer le débat qui suivra la projection du film.
Alors ce ciné-débat, c'est un rendez-vous annuel. Qu'est-ce que vous attendez? Je crois qu'il y a deux salles, hein. Le Parvis, vous êtes un partenaire avec le Parvis, Essai National à Ibos. Vous aurez l'occasion de deux salles de cinéma, mais il n'y aura qu'une seule où il y aura le débat.
Oui, alors effectivement, comme nous avons annoncé la présence de Romane Bourringer, ça suscite pas mal d'engouement. Et donc le Parvis a décidé de mettre à disposition les deux salles pour projeter le film. Mais effectivement, le débat n'aura lieu que dans la salle la plus grande, qui contient 120 places. La deuxième salle fait à peu près 80 places, donc nous avons 200 places à disposition mardi prochain. Je conseille aux auditeurs qui seraient intéressés de venir assez tôt, notamment pour pouvoir assister au débat qui aura lieu dans la salle la plus grande.
La plus grande. Mmh. C'est pas la première fois que vous organisez un ciné-débat. Le sujet, bien sûr, est intéressant, on va en reparler, mais c'est aussi une autre façon de pouvoir approcher des gens qui n'oseraient peut-être pas franchir votre porte.
Ah ben tout à fait, c'est ça, c'est exactement le but de ce ciné-débat, c'est à partir de la diffusion d'un film au grand public, de parler de ce sujet, de faire venir des personnes qui sont intéressées alors pour voir le film, mais ensuite éventuellement pour pouvoir participer à des échanges avec des professionnels de notre structure. Donc mardi prochain, je serai avec le docteur Marzou, qui est médecin addictologue d'Addiction France. Voilà, on va co-animer le débat qui suivra la diffusion du film, mais évidemment avec aussi la présence de Romane Bourringer, ce qui n'est pas pour nous un petit événement, mais c'est vraiment l'idée de parler du sujet des addictions, de l'addictologie, et de pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre et à des personnes qui ne sont pas forcément touchées ou concernées directement par le sujet, mais c'est venir assister à une projection d'un film. Voilà, c'est l'idée, ça fait partie de nos missions, de un peu de vulgarisation, ou en tout cas d'essayer de parler de ce sujet, d'éviter les clichés, les représentations, les stigmatisations, et de pouvoir parler le plus objectivement possible de ce sujet, qui est aussi un sujet de société.
Alors bien sûr, Romane Bourringer est une actrice et réalisatrice, française. Est-ce que ça a été compliqué de la faire venir?
Eh bien non. Alors ça peut surprendre, mais effectivement, j'ai réussi à avoir ses coordonnées. Je l'ai contactée directement et elle a accepté de suite, ce qui montre aussi sa proximité sa simplicité entre guillemets. En tout cas, elle a accepté assez rapidement de venir, sous condition évidemment de disponibilité, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas mobilisée sur une représentation théâtrale, puisqu'elle est en ce moment aussi, elle fait le tour de France où elle joue dans une pièce de théâtre, mais elle aurait pu aussi avoir un tournage qui tombe à ce moment-là, mais en tout cas, elle a accepté rapidement de venir de manière tout à fait simple et normale, ce qui pour nous montre qu'on a affaire à une actrice de qualité. En tout cas, c'est quand même un honneur pour nous de pouvoir la faire venir sur Tarbes. Et du coup, sa présence ne s'arrêtera pas à la présentation du film et à la discussion qui suivra la diffusion. Mais l'après-midi, elle a accepté aussi de rencontrer des usagers des différentes structures de soins addictologiques du département. Donc ça sera un moment important où elle va pouvoir échanger, discuter avec des usagers qui pourront témoigner de leur parcours de vie, des difficultés qu'ils ont rencontrées autour de l'addiction, et ils vont pouvoir aussi rencontrer une actrice connue qui a quand même eu un César dans sa carrière, ce qui n'est pas rien. Le nom Bourringer pour les cinéphiles quand même a du sens, et porteur de valeur. Donc voilà, on va vraiment profiter de sa venue pour faire venir aussi des personnes. L'idée du cinéma, c'est l'accès, notamment c'est aussi le but du parvis, c'est de rendre de diffuser la culture le plus largement possible, et il y a pas mal d'usagers du centre qui vont venir. Voilà, on va inviter aussi des usagers évidemment au ciné, donc notamment des personnes qui sont loin qui pour beaucoup de raisons ne viennent pas spontanément au cinéma ou au parvis, et qui vont pouvoir passer une soirée agréable avec Romane Bourringer et voir son film. Bon voilà, ça va répondre à pas mal d'objectifs, y compris l'accès à la culture au plus grand nombre.
Voilà, la culture, et puis c'est un vrai et engagement de sa part, Romane Bourringer. Elle vient pas juste pour signer 4 autographes et repartir, il y a un vrai engagement de sa part.
Ah oui, tout à fait, à la fois sur la présentation de son film, mais aussi aux échanges qui auront lieu avec les usagers, ce qui n'est pas rien, parce que j'ai lu pas mal de choses la concernant, que j'ai découvert, où elle aussi touché du doigt l'addiction de près dans un contexte familial, où l'alcool, pour elle... C'est plus synonyme de difficulté, de souffrance que de plaisir ou de convivialité comme ça peut l'être. Donc elle s'expose quand même et elle va pouvoir échanger avec des usagers qui vont témoigner aussi de leur parcours de soins, de leur rétablissement pour certains. Donc c'est quand même pour nous vraiment un grand geste qu'elle fait en venant à Tarbes sur cet événement.
D'accord, voilà, donc c'est rendez-vous au Parvis. On va rappeler la date, l'heure et puis aussi les tarifs.
Tout à fait, donc c'est mardi 2 juin, mardi prochain à 20h, donc de diffusion des films. Le Parvis met en place un tarif unique aussi à 5 €, donc c'est quand même relativement modeste pour le plus grand nombre. Donc mardi 2 juin au Parvis à 20h, projection du film Dites-lui que je l'aime, en présence de Romane Bourringer.
Voilà, un beau film qui permettra bien sûr après, à l'issue de ce film, cet échange avec à la fois et votre équipe de Addiction France 65 et puis bien sûr Romane Bourringer.
Tout à fait. Voilà, une partie de l'équipe d'Addiction France sera présent. J'ai oublié de dire, évidemment, c'est important, c'est que nous organisons les ciné-débats en collaboration, en partenariat avec la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Tarbes et de l'Aglo, donc qui est une communauté de professionnels de la santé, dont une des missions, c'est aussi de parler de la santé, de parler de sujets de santé au plus grand nombre, y compris au grand public. Bon voilà, tout seul, voilà, c'est vraiment un événement que nous organisons en partenariat avec la CPTS Tarbes et territoire de l'agglomération de Tarbes, notamment Marion Marin, qui est chargée de projet, directrice des projets à la CPTS, et qui est une des chevilles ouvrières de cet événement. Et nous avons aussi un partenariat cette année avec l'association Maïs Prévention, voilà, qui va nous aider à l'organisation de cet événement, parce qu'effectivement, bon, il y a quelques frais. Nous sommes, nous, une association avec des financements publics, et donc nous avons pu compter sur le soutien aussi de l'association Maïs Prévention. Mais en tout cas, le ciné-débat, comme chaque année, est organisé avec la CPTS Tarbes-Adour.
Voilà, et puis bien sûr le Parvis, hein.
Évidemment, le Parvis qui nous aide, évidemment, nous accueille, met à disposition les salles et met en place un tarif unique de 5 €, donc qui est un partenaire maintenant des ciné-débats. Et l'idée, c'est vraiment de l'inscrire dans la durée, de proposer chaque année un ciné-débat autour du thème des addictions.
Des addictions, voilà. Et puis cette année, donc, on le répète, c'est « Dites-lui que je l'aime » de Romane Bourringer, qui sera d'ailleurs, vous l'avez bien dit, est présente, et non pas uniquement présente pour son film, mais toute la journée, où elle va rencontrer effectivement différentes structures d'addiction dans le département. Hein.
Tout à fait. Voilà, l'après-midi, il y aura un temps d'échange avec... avec Romane Bourringer, et nous avons l'accord donc de la communauté thérapeutique de l'Afitol dans le Val d'Adour, qui sera présent, l'hôpital Le Montaigu et certainement la clinique de Piétat. Donc voilà, c'est aussi on travaille en réseau, en partenariat avec les différentes structures de soins addictologiques, et donc c'était tout à fait naturel que nous les associons à ce type d'événement, et c'est avec plaisir qu'ils ont accepter de répondre favorablement à d'autres propositions.
Mardi 2 juin à partir de 20h, donc soirée ciné-débat. On le répète, c'est 5 euros donc le tarif hein, pour voir le film et puis aussi participer donc au débat. C'est au Parvis hein, à Ibos, scène nationale, et puis donc vous l'avez dit, c'est en partenariat avec donc le Parvis, l'association Prévention Maïf et CPTS donc Tarbes Adour. Merci beaucoup Vincent Ricarère pour cette intervention et puis ce ciné-débat qui est donné donc par votre association Addiction France. On termine peut-être par donner l'adresse de votre structure et puis en deux mots, quelles sont les addictions que très rapidement, les addictions dont c'est toute addiction, hein, que ce soit, on ne parle pas que de l'alcool ou de la drogue.
Non, voilà, on est un centre de soins généralistes, donc nous pouvons recevoir tout type d'addiction avec produits, alcool, tabac, drogue, médicaments, mais sans produits aussi. Ça peut être les jeux de hasard et d'argent, oui. Les achats. Et donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire et nous accueillons et accompagnons les personnes qui à un moment donné se retrouvent en difficulté avec leur consommation, mais aussi les proches, l'entourage, oui. La famille, les amis qui s'inquiètent et qui ne savent pas forcément comment aider la personne touchée par l'addiction. Et donc nous sommes situés au 65 rue Georges Lassalle à Tarbes et le numéro de téléphone c'est le 05 62 93 73 82.
Merci beaucoup Vincent Ricarère et puis bon ciné-débat donc mardi 2 juin 20h au cinéma Le Parvis, en présence donc de Romane Boringer. À très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Radio Présence à Auch, 89.6.
Et on retrouve l'actualité tout de suite. L'actualité à cette mi-journée présentée par les élèves de l'école de journalisme de Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous. La chaleur va encore monter d'un cran cette semaine en Occitanie. Jusqu'à 35 degrés sont attendus, notamment du côté d'Agen, dans les prochains jours. Les spécialistes évoquent la mise en place progressive d'un véritable dôme de chaleur, un phénomène météorologique qui bloque l'air chaud au-dessus d'une région pendant plusieurs jours. Les températures pourraient donc ainsi grimper d'ici à la fin de semaine avec une chaleur de plus en plus difficile à supporter, surtout la nuit. Les autorités appellent à la vigilance, surtout pour les personnes âgées et fragiles. Près de Toulouse, un important incident a ravagé un hangar agricole. Le feu a détruit environ 2000 tonnes de paille stockées sur le site. D'importants moyens ont été mobilisés pour éviter la propagation des flammes aux bâtiments voisins. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. Une enquête doit désormais déterminer l'origine du sinistre. En Ariège, un projet visant à relier la rivière du Touvre au lac Montebel continue de susciter la polémique. A attendu depuis près de 10 ans, cet aménagement destiné en particulier à sécuriser l'approvisionnement en eau fait l'objet de nombreuses critiques de la part d'associations et de riverains. Les opposants dénoncent un projet jugé trop coûteux et potentiellement néfaste pour l'environnement local. Nouvelle mobilisation régionale pour sauver des milliers de poules promises à l'abattoir. Plusieurs associations de protection des animaux lancent des opérations d'adoption dans toute l'Occitanie afin d'offrir une seconde vie à ces animaux issus d'élevage industriel. Les bénévoles espèrent trouver rapidement des familles afin de réduire l'ampleur des besoins de ces petites poules. Culture maintenant à Tarbes, la 30e édition du festival Equestria s'annonce déjà comme un succès économique majeur pour la ville. Plus de 50 000 visiteurs sont attendus cet été autour des spectacles équestres et des animations programmées. Les organisateurs évoquent déjà des centaines de nuitées d'hôtels réservées et plusieurs milliers de repas à servir pendant l'événement. Et puis enfin pour finir, le festival Terre de Résistance fera son retour vendredi au cinéma La Strada de Decazeville. Débats, projections et rencontres autour des questions sociales, environnementales et citoyennes seront proposées au public pendant plusieurs jours dans l'ouest de l'Aveyron.
Allez, merci beaucoup. Le retour de l'actualité, ce sera tout à l'heure à partir de 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. On va parler d'un sujet lourd, c'est celui du deuil. Comment s'en sortir lorsqu'on a perdu quelqu'un de précieux? C'est ce que nous propose aujourd'hui Un jour, un livre, un auteur.
Présence à Auch, 89.6.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal,
Philippe Subercaz.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est un duo célèbre. Après Starsky Hutch, il y a Philippe Noni et Diego Arrabal.
Avec des cheveux blancs.
Oui, c'est ça. Ils ont bien vieilli. Pour, bien sûr, notre moment littéraire de la semaine. On rigole, mais on va parler d'un sujet qui n'est pas.
Qui est grave. Qui est un sujet grave, tout à fait. Vrai,
puisqu'on va parler de la mort.
Tout à fait. Bonjour Philippe Subercaz et bonjour Diego Arrabal.
Bonjour les deux Philippe.
Qui n'a jamais été touché par la perte d'un être cher, qui n'a jamais connu la douloureuse et terrible épreuve du deuil. Pour celles et ceux qui vont se reconnaître dans ces deux questions, il est sans doute encore temps de prêter l'oreille et d'écouter l'interview qui va suivre. L'auteur a vécu la perte de son petit frère, et l'écriture a été un véhicule pour construire son deuil. Elle a écrit un témoignage émouvant, touchant, qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Navigation de nuit, publié chez Pierre Tecky, éditeur. Bonjour Amélie Roulier.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur de Navigation de nuit, publié donc par Pierre Tecky, éditeur. Merci d'avoir accepté donc notre invitation, hein, tout d'abord sur les ondes de présence. Je vais lire la quatrième de couverture de votre ouvrage. Et puis on va passer eh bien, en suivant aux questions. En décembre 2015, Amélie perd Dominique, l'un de ses petits frères, dans un accident familial. Le choc a l'effet d'une vague déferlante qui surgit au beau milieu d'une vie de jeune professionnel bien remplie. Malgré un entourage présent et une famille nombreuse, sa vie prend la tournure d'une traversée en solitaire imposée. Du creux de la tempête, au retour au port, le récit suit la jeune adulte endeuillée, aînée d'une fratrie amputée dans son quotidien et sa quête de paix. Elle y partage ses combats en offrant au lecteur les clés de ce qui a contribué à la remettre debout. La parole d'une aînée, qui rappelle que les frères et sœurs sont souvent les grands oubliés dans les deuils familiaux. Une réflexion sur le deuil des jeunes dans une société où la mort est un sujet tabou. Amélie Roulier, vous n'aviez jamais pris la plume avant la perte tragique de votre frère ?
Jamais.
D'accord. Quel a été votre moteur pour choisir le chemin des mots et nous offrir, donc Philippe Subercaz le disait tout à l'heure, ce très beau témoignage en nous embarquant dans votre bateau, donc qui s'appelle hein, votre témoignage, Navigation de nuit, Pierre Tecky, éditeur. Ça a été quoi ce moteur pour choisir le chemin des mots ?
Je pense que y a eu plusieurs choses, mais les mots, ça se. Déjà, on prend le temps qu'il faut pour les écrire. Ça permet, enfin, ça oblige à un chemin de réflexion, à un chemin de voilà, trouver les justes mots. Et puis, ça permet aussi aux lecteurs de prendre ce qu'ils ont besoin de prendre, d'y revenir. Voilà. Après, c'est sorti un peu de nulle part pour moi, même si je viens d'une famille où certains ont des vrais talents d'écrivain. Voilà. J'ai eu une intuition, je me suis dit peut-être que ma manière de participer à à lever ce tabou du deuil, c'est par là que ça doit passer, pour moi en tout cas. D'autres font des films ou voilà, vont utiliser d'autres médias, mais voilà, pour moi ça a été vraiment l'écriture qui s'est imposée au début de cette aventure pour moi.
Vous écrivez en page 14 de votre ouvrage, donc de votre témoignage, Navigation de nuit, il a publié donc chez Tecky Éditeur, vous écrivez ces mots, je vous cite. Ce journal de bord est le mien. Celui d'une jeune femme et aînée de 6 enfants qui a perdu son plus jeune frère. Il n'est pas celui de mes parents, ni de l'un des membres de notre grande famille ou celui des amis de Dominique. Chacun de son côté a vécu ou vit encore cette traversée. Son intimité, comme son chemin personnel face à ce drame, se doit d'être respecté. Enfin, je demande pardon à ceux qui pourraient souffrir en voyant dans mon expérience une provocation ou une violente atteinte à leur histoire personnelle parce que dans leur tempête, les choses sont bien différentes. Comment on fait à un moment donné pour écrire effectivement ce témoignage ? Parce que vous êtes consciente, on le voit là dans les mots que je viens de lire, hein, qui sont les vôtres, qu'au moment où vous l'écrivez, vous vous dites en fait, il n'y a pas un deuil, il y a des deuils. il y a autant de deuil qu'il y a effectivement de personnes. Et c'est vrai que là, quand vous écrivez cela, ça veut dire que pour vous, la perte d'un être cher, elle n'est jamais vécue de la même façon par une fratrie.
Elle n'est jamais vécue par personne, en fait, de la même manière, que ce soit au sein de la fratrie ou plus largement, parce qu'on fait le deuil d'une relation qui est très singulière. C'est d'une personne à une autre personne, et le lien qu'on a avec notre petit frère dans notre fratrie, pour nous citer nous, il a été différent. On n'avait pas les mêmes âges quand il est né, on n'avait pas les mêmes relations. À chaque fois, c'est très singulier. Et en même temps, de l'extérieur, on pourrait imaginer que ce soit un peu équivalent, puisqu'on a reçu la même éducation, on a les mêmes parents, en tout cas dans notre situation, on a vécu ensemble, etc. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est vraiment que chacun arrive avec son histoire avec la personne, et puis où il en est dans la vie, ce qu'il a vécu dans sa vie, sa foi, sa religion, de manière plus large. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment de très unique, même si aujourd'hui je peux le dire, parce que je l'ai appris, entre guillemets, il y a des choses qui se ressemblent d'un deuil à un autre. Il y a des vécus qui peuvent se connecter, il y a des résonances entre les vécus de deuil, mais c'est toujours différent. Et c'est même toujours différent quand vous allez vivre, vous, la perte d'une personne puis d'une autre. Ça peut être des deuils très différents, des réactions très différentes. Donc c'est important effectivement de le noter.
Ouais, de votre côté, alors c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, dans votre témoignage. Vous comparez votre épreuve à une traversée en bateau, hein, d'où le titre « Navigation de nuit ». Vous avez un bandeau donc en bas de page de votre roman qui s'appelle « Un chemin de consolation face au deuil effectivement d'un frère ». Donc de votre côté, comme je le disais, vous comparez votre épreuve à une traversée en bateau avec ses tempêtes, ses doutes et la croyance. On le voit tout au long de votre témoignage. Donc c'est un fil rouge qui est pour vous un support essentiel. Même si vous avez des doutes, hein, qu'à un moment donné, on sent votre colère aussi, effectivement, par rapport à Dieu, de dire mais pourquoi, quelque part, tu m'as enlevé mon petit frère, quoi. Et vous avez un doute quant à la perte, quant à cette perte-là. Qu'est-ce qui a changé chez vous avec le deuil, effectivement, de votre frère, et qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à la religion ?
Alors, je dirais que la première chose, c'est ça a renforcé ma foi en l'après. Alors on dit la communion des saints quand on est catholique, mais voilà, le fait que on va retrouver, on est connecté aux gens qui sont décédés, donc ça a renforcé ça chez moi. D'une certaine manière, ça a un peu enlevé ma peur de la mort. Je sais que voilà, quand ce sera mon tour, il y a une partie de ceux que j'aime qui sont déjà là-bas. Voilà, c'est difficile peut-être à comprendre, mais il y a ça. Et puis, ça a aussi beaucoup questionné ma foi. Effectivement, vous avez parlé de la colère donc, que j'évoque dans le livre. Pour moi, ça a épuré ma vision de Dieu, en fait, parce que quand on est confronté à l'épreuve, en fait, on est obligé de sortir des petits schémas un peu faciles de Dieu même. Ça vient questionner ça, en fait.
Ça vient questionner un peu aussi, c'est ce que vous expliquez. On va parler un peu après de votre vie professionnelle. Hein. J'en parlais tout à l'heure, donc en exergue, hein, de ce que ça a orienté chez vous. Moi, ce que je voulais rappeler, avant de vous poser la prochaine question, c'est situer un peu ce qu'est le deuil. Le deuil, ce sont 5 étapes. La première étape, c'est le déni. Hein, c'est pas possible, ça n'a pas pu m'arriver, etc. La deuxième étape, c'est la colère. C'est mais pourquoi moi ? Pourquoi ça a frappé mon petit frère ? La troisième étape, c'est la négociation, où on commence effectivement à essayer de combiner avec le réel pour pouvoir accepter ça. La quatrième étape, c'est la dépression, hein, où là, vraiment, donc on plonge. Et la cinquième étape, c'est celle effectivement où on construit quelque part l'absence de l'autre, donc, et c'est l'étape de l'acceptation. Vous écrivez dans votre témoignage, l'amitié nous offre cet espace qui permet de dire notre vulnérabilité. L'épreuve est un révélateur de la puissance ou de l'absence d'une réelle amitié. Dans le deuil, l'amitié pour vous, quelque part, c'est ce que vous dites dans votre témoignage, c'est un fanal qui vous a guidé dans l'obscurité. Surtout, quand j'ai lu cette phrase terrible sur votre site, qui parle effectivement des formations que vous êtes amené aujourd'hui à effectuer, vous avez une personne qui vous dit « tu as dû moins souffrir que ta mère ».
Oui, oui. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer d'y répondre intégralement. La première chose, les étapes que vous avez citées, c'est les étapes que Elisabeth Kubler-Ross avait modélisées,
tout à fait.
Voilà, on utilise aussi, moi j'utilise plus celles qui ont été décrites par Christophe Fauré, qui est un de nos contemporains, mais toujours.
Et qui sont ces étapes-là, celles-ci
La première étape, c'est le choc. Le choc et la sidération. La deuxième étape, ça va être la fuite recherche. Donc l'ambivalence, en fait, à la fois on recherche à se connecter à la personne à travers plein de méthodes. Hein. Ça peut être en mettant ses habits, en respirant son parfum, en écoutant sa musique, en allant, pour certains, se connecter via des médiums. Ça, c'est la fuite et la recherche. Il y a la fuite aussi de la douleur. Et ensuite, on a une déstructuration et une restructuration qui sont deux mouvements de... la déstructuration, c'est la plongée en général dans quelque chose qui ressemble à une dépression, mais qui n'est pas une dépression. Je vais très très vite, hein, mais voilà, je donne quelques clés. Et qui va en fait être tout un chemin d'intégration de l'absence. Et puis la restructuration, c'est vraiment... au fur et à mesure, j'ai intégré... ce nouveau lien qui est d'une certaine manière en moi et qui va me permettre de reprendre peu à peu ma vie. Alors après, forcément, ces étapes, elles sont un peu à cheval les unes des autres. Hein. C'est pas linéaire comme on
l'explique. C'est pas linéaire, oui, tout à fait.
Il y a beaucoup d'émotionnel, de tourbillons émotionnels là-dedans, et puis il y a des vécus très différents en fonction du contexte, du lien avec la personne. On avait forcément, quand on est veuf ou veuve, quand on est un enfant qui perd un parent, quand on perd un grand-parent, on a des impacts qui sont un peu différents. Et c'est vrai aussi pour le contexte initial. Ça, c'était pour la partie théorique. Concernant l'amitié, effectivement, ça a été... pour moi, ça a été vraiment un phare dans la nuit. Ces amis qui étaient là, qui n'ont pas changé, qui sont restés eux-mêmes et qui en même temps avaient conscience que voilà, c'était difficile pour moi, que je pouvais dire non, que j'étais pas assez forte aussi pour prendre certains engagements à certains moments, mais que j'étais quand même assez forte pour en prendre. Voilà, il y a plein de choses et effectivement, j'ai vécu comme beaucoup de gens ces amis qui disparaissent aussi parce que la douleur est trop compliquée à gérer, la souffrance est trop compliquée à gérer. Pour moi, les épreuves de la vie sont vraiment des révélateurs de la puissance d'une amitié, c'est sûr.
Je voudrais qu'on dise deux mots, vous l'avez évoqué un peu Amélie Roulier, hein, j'en parlais tout à l'heure, donc de votre vie professionnelle, hein, suite à la perte de votre frère, alors pas tout de suite, hein, on voit que ça fait partie effectivement de l'étape du deuil. Vous avez monté un organisme d'accompagnement au deuil intitulé Amélie Roulier, accompagnement du deuil. Donc pour préparer cette émission, hein, j'ai été voir sur votre site un peu tout ce que vous pouvez proposer, que j'ai trouvé réellement passionnant. Est-ce que vous, aujourd'hui, ça, le fait d'avoir monté Amélie Roulier Accompagnement du Deuil, donc cet organisme de formation et d'accompagnement, quelque part, je préférais plus dire organisme d'accompagnement que de formation, est-ce que c'est votre façon aujourd'hui de rendre aux autres l'expérience acquise avec le décès de votre frère et de leur éviter, alors, autant que faire se peut, hein, les écueils que vous avez rencontrés?
Je dirais oui, et je dirais pas que. Parce que je pense qu'il y a un mouvement très naturel de vouloir aider les autres de la même manière qu'on a été aidé quand on vit un deuil. Mais c'est pas le chemin de tout le monde de faire ce choix. Et tout le monde n'est pas n'a pas la capacité de le faire parce que c'est voilà, ça implique plein de choses derrière très concrètes, hein, de l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est loin d'être facile, mais effectivement, c'est sûr que cette expérience, elle m'a donné un regard sur ce qui peut être vécu et une vraie conscience de l'émotion dans laquelle on peut vivre, des difficultés qu'on peut traverser, même si j'ai pas traversé toutes les difficultés. Voilà, c'est quelque chose qui est très incarné pour moi. J'ai effectivement pris beaucoup de temps parce que ça a été un cheminement long, mais c'était déjà, j'avais un métier, je suis ingénieure et j'avais un métier qui me plaisait, dans lequel j'étais heureuse et j'apprenais plein de choses, donc j'avais pas envie au départ de quitter ça. Et puis il y avait aussi un point d'attention très important pour moi, c'est que on se soigne pas à travers les autres. Enfin, c'est un gros danger quand on va trop vite dans ce genre de démarche, c'est de se soigner à travers les autres. Et du coup, de rentrer dans une attitude où on impose à l'autre, même avec en toute bonne foi, mais on impose à l'autre des solutions qui sont pas les bonnes pour lui. On n'est pas dans l'écoute, on est en train dans une réparation de soi. Et ça, c'était vraiment un point rouge. Il n'était pas question pour moi de rentrer là-dedans. Donc j'ai pris beaucoup de temps de réflexion. Et effectivement, j'ai fait ce choix au bout de 8 ans. Voilà, d'aller me former vraiment professionnellement pour pouvoir proposer ce que je propose aujourd'hui. D'un point de vue professionnel.
Alors sur votre site, j'ai repéré une chose, j'ai trouvé qu'il y avait c'était presque, je ne sais pas si c'était une coïncidence ou pas, vous organisez une rencontre sur le deuil, rue Victor Hugo, même Victor Hugo, qui a justement écrit ce magnifique poème avec cet incipit « Demain dès l'aube », qui concerne sa fille, hein, qu'il a perdue.
Oui.
Donc vous vous rappelez, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Et c'est cette rue où vous allez faire cette formation, c'est un hasard?
Oui, c'est complètement un hasard. J'étais dans un endroit qui s'appelle les petites cantines, qui sont des lieux de retrouvailles. On cuisine ensemble et on déjeune ensemble. Puis après, voilà, c'est un lieu aussi où se passent des rencontres de tout type. Il y en a plein en France. Et pour faire le lien, la personne qui a monté cette tiers-lieu, on va dire ça comme ça, s'appelle Diane Dupré-Latour et c'est une personne qui a été aussi confrontée au deuil. Donc voilà, tout est un peu lié, je pense. Je pense que cette solitude, effectivement, de la personne endeuillée, elle permet à certains de se lancer dans des actions pour lutter contre ça. Et c'est beau de voir ça.
Et je parlais de ça parce que, bon, c'est vrai que, personnellement, hein, je considère que ce poème de Victor Hugo est certainement un des plus beaux, sinon, pour moi, le plus beau poème de la littérature française. Et c'est un poème sur le deuil. C'est un poème sur le deuil. Voilà, hein, puisque il faut remettre les circonstances. Hein, lorsque Victor Hugo écrit ce poème, il est en exil. Donc à Jersey, hein, étant donné que Napoléon III est au pouvoir, il revient en France clandestinement, donc avec le risque de se faire arrêter, pour aller sur la tombe de sa fille, et il écrit ce poème, voilà, sur le deuil, qui est absolument splendide. Et c'est vrai que quand j'ai vu que vous organisiez cette formation rue Victor Hugo, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Philippe Supercase, vous avez une question?
Oui, une question. Vous faites de la formation ou de l'accompagnement, comme dit Philippe Nonni. Quel est le caractère des personnes qui viennent? Est-ce que majoritairement, ce sont des gens qui ont conseillé une personne qui est dans le deuil de venir vous rencontrer ou suivre votre accompagnement pour les aider? Et quelle est la partie de cette catégorie-là, ou plutôt des gens qui veulent s'en sortir par eux-mêmes et qui disent « je vais essayer de m'en sortir, je vais essayer de trouver de l'aide, je vais essayer de trouver de l'apaisement en venant vous voir ». Quelle est cette partie? Est-ce que c'est plutôt on conseille aux gens de venir vous voir, ou plutôt c'est personnel, on vient pour essayer de s'en sortir?
Alors, ça fait quelques mois que je suis sur cette partie deuil, parce que je me suis formée l'année dernière.
Oui.
Donc pour le moment, c'est plutôt des gens qui viennent me voir directement parce qu'ils ont eu l'information, plutôt que des gens qui sont redirigés vers moi. Mais ça va venir. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Il y a beaucoup de femmes, pour rien vous cacher, parce que beaucoup d'hommes ont du mal à passer la porte. Je pense que voilà, c'est pas forcément les mêmes besoins en termes d'accompagnement et de parole aussi peut-être. Mais après voilà, j'ai
On accompagne pas un deuil pareil pour une femme ou un homme.
Si, on l'accompagne de la même manière, mais en fait, dans ces ateliers qui sont ouverts à tout le monde, il y a beaucoup de femmes, vraiment beaucoup de femmes. Je pense que c'est beaucoup plus féminin d'aller se poser sur une chaise et de raconter aux autres, de partager ce qu'on vit. En tout cas, c'est la sensation que j'ai et les chiffres le démontrent. Donc voilà, mais par contre, effectivement, quand il y a des hommes qui arrivent, il n'y a aucun souci, on les accueille de la même manière que les femmes. Moi, je suis très touchée par la douleur des hommes, des papas que je rencontre. J'ai eu des hommes autour de moi qui ont été forcément endeuillés dans ma famille et je trouve ça vraiment très touchant de voir la manière dont ils expriment leur deuil et maintenant, je suis très consciente que la société n'aide pas à l'expression de la douleur. Vous citez Victor Hugo, finalement, Victor Hugo, il dit quelque chose, c'est un père qui parle, et c'est ça aussi qui rend le discours, pour moi, très doux.
C'est pour ça que j'en parlais. C'est pour ça que j'en parlais, parce qu'en plus, on est au 19e siècle. Hein. Alors certes, on est dans la période romantique. Mais malgré tout, c'est un père qui exprime son deuil. Qui plus est, c'est un père qui exprime deux deuils, hein. Même s'il ne le dit pas, c'est le deuil de sa fille et le deuil de son pays. Parce que il écrit ce magnifique poème, justement, au mois de mai, lorsqu'il est en exil, il écrit ce vers superbe, le mois de mai sans la France, ce n'est pas véritablement le mois de mai. C'est certainement le plus beau vers et la plus belle déclaration d'amour qu'un homme puisse faire à sa patrie, dont il est en deuil, et également à sa fille. Ce qui fait qu'il ne peut pas aller. Il va apprendre d'ailleurs le décès de sa fille un mois après. Vous voyez, contrairement à aujourd'hui, on l'apprend très rapidement. C'est pour ça que, quand j'ai vu que vous alliez rue Victor Hugo, je me suis dit, il y a quand même quelque chose, il y a du sens, je me suis dit là. Oui, Philippe Subercaz.
Oui, toujours. très actif dans cette chronique. On est dans une radio chrétienne, ici à Radio Présence. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour un croyant de vivre un deuil ou par rapport à une personne qui n'a aucune croyance?
Alors, c'est une question, peut-être que je vais répondre avec des pincettes parce que la croyance, il y a plusieurs religions qui proposent un après, qui a, voilà, il y a la résurrection, il y a la réincarnation, etc. Je pense que quand les personnes croient à quelque chose qui se passe après, déjà, ça aide plus que quand on croit au fait que la mort, c'est un coup près et qu'il n'y a plus rien derrière. Ça joue. La spiritualité, de manière large, aide. Après, dans l'espérance chrétienne, il y a effectivement quelque chose de très lumineux. Voilà. Je pense que, effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé parce que je crois à la force de la prière et que j'ai eu la chance. On a eu la chance d'être entouré par nos familles, nos amis, mais aussi par la prière de beaucoup de gens. Donc je vous dirais oui, et en même temps je vous dirais il y a aussi des gens qui s'en sortent très bien en niant d'autres croyances que des croyances chrétiennes, en fait.
On va devoir s'arrêter là pour cette semaine. Le sujet est vraiment très intéressant. Donc, j'aimerais bien qu'on se retrouve la semaine prochaine. Mais je pense que vous êtes d'accord, Philippe.
Bah, tout à fait, complètement. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Amélie Roulier pour
Tout à fait. Je suis transporté.
Même si le sujet, bien sûr, est un peu.
Il est transporté, même s'il a un certain âge, quand même, hein, notre Diego National. Hein,
oui, ouais, mais il vole. Il survole.
Il est contemporain, on l'a dit déjà, de l'époque de Napoléon III. Hein, donc, du problème.
Même d'avant.
Oui, pardon, c'est vrai.
Le perfoir, Juste, on se retrouve parce que le sujet est intéressant. Et j'aimerais que la semaine prochaine, avec vous, on puisse rentrer plus en détail dans ce que vous proposez, dans cette
voilà,
thérapie.
Voilà, au niveau d'Amélie Roulier, accompagnement du deuil, donc qui est la structure qu'elle a.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Nonni, Philippe Subercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Radio Présence dans le Comminges 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Poursuite des catéchèses du pape sur Sacrosanctum Concilium, la constitution de Vatican II sur la